Voilà, bienvenue, hein, bienvenue dans ce cours de Connard 101. Voilà, Connard 101, hein, bienvenue, heureux encore une fois cette année d'ouvrir ce cursus des retardataires donc. Non, mais allez-y, tout le monde va vous attendre. Vous êtes dans un cours de Connard, est-ce que vous pensez que vous en tirez à si bon compte?
On a pris l'avance.
Et en plus, on fait de l'esprit. Il va falloir prouver que vous êtes à la hauteur, jeune homme. Je note. Je note. Très bien. Donc voilà, j'espère que vous avez peur, vous allez en prendre plein la gueule. Bienvenue donc dans ce cours de connard. Une joie, encore une fois, cette profession de connard professionnel, d'ingénieur, hein, comme on le dit, soit si bien reconnue. Heureux de voir que de nombreuses têtes sont présentes. Pour aspirer à devenir connard professionnel, heureux aussi de savoir que bon nombre d'entre vous ne seront pas à la hauteur et seront virés en plein cours de l'année. Oui, en plein couille de l'année, allons-y. Évidemment, merci. Voilà, donc je tiens à vous présenter hein, pour cette masterclass notre invité, voilà, monsieur le G, hein, bravo, merci.
On peut l'accueillir.
Merci.
Alors, moi, je suis donc connard professionnel, donc je précise tout de suite, c'est bien monsieur J, pas je, pas Guy, pas que. J,
Si
d'accord?
on vous
Ah non, si
appelle.
quelqu'un se trompe, je lui pète la gueule. Donc. Alors, déjà, je voudrais m'excuser, ça sera à peu près la seule fois que je le ferai. Pour le stagiaire qui a écrit ça picole du livre, enfin, payé 400 balles, il aurait quand même pu faire un effort. Bon. Alors, le principe. Alors. Donc moi, je puis résumer le métier de connard d'ingénieur, de connard professionnel, pardon, en trois mots. Le flouze et le flouze. Donc, il faut bien distinguer le connard professionnel du salaud à la petite semaine. Vous comprenez bien que c'est... qu'est-ce que c'est que ce truc de connard? La route est longue. Oui, donc c'est beaucoup plus simple de voler le sac d'une petite vieille pour lui taxer quelques dizaines d'euros plutôt que ce que ferait un vrai connard, c'est-à-dire aller ouvrir une banque en attendant que le pigeon moyen vienne se faire racketter à domicile, ce qui est quand même beaucoup plus confortable.
C'est une bonne définition.
Non, oui, je pense que c'est la meilleure définition qu'on pourrait trouver pour les connards professionnels. Donc c'est un métier dur, vous n'y arriverez sans doute pas, hein, soyons honnêtes.
Si je peux me
Oui,
permettre.
vas-y.
C'est un métier dur et vous n'y arriverez pas tout simplement parce que c'est un métier réservé aux esprits supérieurs. Voilà, je pense qu'il ne faut rien vous cacher à un moment donné. Seuls quelques êtres sont vraiment capables. Être connard n'est pas qu'un simple métier, c'est une façon de vivre, c'est une façon de voir la vie. Hein. L'idée étant d'emmerder un maximum le monde pour, encore une fois, dans quel but?
Pas de faire du flouze et du flouze.
Voilà.
Voilà. Tant mieux.
Non, c'est bon, pas déjà.
Alors, on va passer tout de suite, je pense, dans le vif du sujet.
Voilà, cette façon de voir le monde, je pense qu'on peut déjà, oui, en effet.
Alors, il y a quelque chose qui est très important déjà, c'est que lorsqu'on est un connard professionnel, il faut savoir tirer parti de l'environnement. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'on a deux exemples, et on a ce qui est marqué, on l'a ici. Donc, nous avons le modèle pauvre, hein, donc de l'écran de projection. Voilà. Voilà. Des questions? Alors après, on a le modèle riche qui est sympathique aussi parce qu'il a un peu la classe.
Je crois que c'est toi qui as des retardataires à nouveau.
Engueule-les.
Bienvenue. Bienvenue dans ce cours de connard. Alors, franchement, on sait déjà que vous êtes viré. Hein. Je pense pas que ça serve à grand-chose que vous veniez. Voilà. Très honnêtement, hein, à mon avis, vous allez rater votre année. Et en même temps, on va vous laisser poursuivre ce cours puisque comme ça, vous payerez votre inscription. Or, on vous le rappelle, puisque vous avez raté le début, le but d'être un connard, c'est d'engranger du flouze et du flouze. Nous en étions donc à la démonstration d'un environnement que l'on connaît, que l'on modèle, afin d'emmerder le monde et de gagner de l'argent. Voilà. Et là, donc, on avait démontré avec le premier spécial pauvre qu'on a fait importer exprès ici à l'INSEP, ils ne sont pas pauvres.
Oui, alors vous comprenez bien que le principe d'un écran de projection, c'est que c'est un objet qui, en fait, est absolument inutile si l'environnement est bien conçu. C'est-à-dire que si on n'avait pas un papier peint couleur saumon avarié et on aurait juste mis un papier peint du plan, on aurait projeté sur le mur. Et on n'aurait pas eu cette espèce de saloperie avec ce ronronnement de l'éléphanteau chitique qu'on entend d'ailleurs.
Ingénierisé.
Voilà.
Des années de
R&D, quand vous payez cette saloperie plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers d'euros, si vous payez principalement notre R&D qui est extrêmement bien foutu, mais qui coûte cher du coup parce que nous sommes plein de thunes.
Donc tout simplement, pour pouvoir vous faire payer ça, on l'a dit, des murs sonores avariés, accordés quand même avec ce magnifique lilas crevé et ce vert moisi qui permet quand même de vous mettre dans un état nauséeux, important, et qui fait que vous serez les yeux rivés sur cet écran absolument insupportable. Voilà, je pense que là, on aborde assez bien la notion de connard professionnel. On crée l'environnement et on vend le produit aux pigeons. Voilà. Alors sachez qu'on va quand même distinguer deux choses en tant que connard, deux interlocuteurs parmi des esprits faibles que nous influencerons, dont vous faites déjà partie, je vous rassure, évidemment. Nous allons distinguer donc le pigeon final, le client, le consommateur, le mot est assez éloquent en soi, et vous allez très très peu vous adresser au consommateur, vous allez surtout vous adresser à votre commanditaire. Là aussi, il y a encore du con, mais il est mieux caché. Le commanditaire, ça va être donc l'entreprise pour laquelle vous allez offrir, de manière extrêmement rémunérante, offrir vos services, donc de connard professionnel et de consulting. On peut prendre un autre exemple tout simplement sur un produit. Est-ce que tu veux bien nous présenter ce produit, le paquet de biscuits à ouverture facile?
Alors, un grand classique. Si vous avez déjà vu un paquet de biscuits des années 80, vous avez une boîte, on a rabattu les bords, on les a collés. Vous prenez le bord, vous le décollez.
Désolant.
Et ça marche bien. C'est désolant parce que vous ne vous rendez pas compte du manque à gagner à ce niveau-là. Là, on a créé les ouvertures arrache-pouce. Qui est en fait, alors arrache-pouce, c'est ça double tranchant, c'est-à-dire ça vous défonce le pouce, mais ça défonce aussi la boîte. Avec un peu de chance, ça écrase les gâteaux à l'intérieur.
Et gagne du produit que voilà. Vous achèterez.
Exactement, parce que si vous avez ouvert ça comme ça et que c'est pour offrir, vous offrez pas des mets tout pétés à vos invités. Vous n'êtes pas des connards. Voilà, d'ailleurs, il va falloir remédier à cela rapidement. Mais c'est ce qu'on appelle, je crois que si tu voulais me parler de ça, c'était le syndrome de l'huître.
Exactement. Alors oui, un concept essentiel qu'on abordera dès les premiers cours. Sachez-le, si vous n'avez pas lu la bibliographie, bah, tant pis pour vous, j'ai envie de dire, mais on sait déjà ce qu'il adviendra de vous. Vous finirez caissière à vendre ces petits paquets. Donc, le syndrome de l'huître. C'est très très simple, c'est le principe de toutes les ouvertures faciles qui marchent mal. Plus une ouverture marche mal, plus le consommateur va se crisper sur l'ouverture, va essayer d'ouvrir son huître comme ça péniblement, et lorsqu'il ouvre, oh, c'est une perle. Non, vous ne pouvez pas du gravier sucré, dégueulasse, sablonneux, avec des morceaux de graisse couleur chocolat. Vous bouffez la perle des cookies, l'excellence même du délice pâtissier. Voilà. Tout ça parce que vous avez galéré sur une ouverture facile. Encore une fois, bien évidemment, ceci est une invention de connard, et on peut remercier à nouveau les services de recherche et développement. Voilà. On peut montrer peut-être un autre produit que tu as imaginé un peu toi-même, Jim.
Oui, effectivement, là, c'est plus ancien, comme je le disais, c'était les années 90. Ça. Nous, on travaille beaucoup avec des industriels, et alors notamment avec des industriels. Donc là, c'est au niveau du rouleau de scotch.
Scotch de déménagement.
Parce que vous allez me dire, bande de petits naïfs, mais si vous faites des produits tout pourris, quelqu'un d'autre va en faire un mieux. Et vous allez passer chez lui, vous savez, c'est le grand principe du marché libre et non régulé. ça c'est toujours bon. C'est de se dire, oui, puisque tout le monde est libre, on va chacun essayer de faire de mieux en mieux, et puis par une espèce de synergie magique, le monde va tendre vers un idéal, et puis c'est de la lotte. Hein. Et donc, c'est assez idiot pour deux raisons. Déjà parce que vous pouvez produire les deux.
Et vendre.
Et j'ai oublié l'autre raison.
Non, non, c'est que si vous ne créez pas un produit défaillant, un produit mauvais, que vous vendez à un prix de base, comment pourrez-vous vendre le bon produit plus cher ? À un moment donné, l'intérêt de créer des mauvais produits, c'est de créer une gamme et d'augmenter le tarif, évidemment, du haut de gamme qui devrait être le produit normal, le produit de base. Alors là-dessus, on a quand même un exemple magnifique. Donc le rouleau de scotch qui est ingénieré pour glisser de votre bras, pour rebondir et aller se coller sous le meuble. La colle est faite exprès. Vraiment, on a ça. Notamment, je tiens à, pour commencer un petit peu, les cours de novlangue qui sont obligatoires, l'examen de novlangue est disqualificatoire, à vous parler du coefficient VV, qu'on a inventé nous-mêmes, le coefficient pardon, de glisse VV, le fameux vieux verglas. D'accord ? Et c'est-à-dire, c'est le coefficient de glisse nécessaire à ce qu'un vieux se pète le fémur sur une plaque de verglas. Voilà. Donc là, on est à peu près à 12 VV, autant vous dire que ça glisse comme dans du beurre. Ah, vraiment.
Je vais juste ajouter quelque chose sur le cours de novembre qui est au bout du couloir, au passage. Vous savez ce que ça veut dire lorsque quelqu'un vous dit « je publie sous Creative Commons » ? Ça veut dire NCND, d'accord ? Quand vous publiez sous licence libre, c'est vertueux, donc vous le dites. Si vous ne publiez pas sous licence libre, vous faites croire que vous le faites. Ça, c'est un aparté.
Non, mais attends, j'en profite.
De même, on va être fiers de jailbreaker.
Ah oui.
De jailbreaker son appareil et la pomme. Hein, voilà. Ce qui veut dire que quand même, on est fiers d'avoir acheté une prison soi-même, dont on va scier les barreaux. Mais en même temps, chez les autres en face. Est-ce qu'on dit jailbreaker ?
Non, alors c'est ça qui est génial, c'est que, bon, alors jailbreaker, on sent quand même, ça craint, on se dit, il y a quand même prison, il y a des gens, voilà, comme dans ces conférences de communistes, il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais ça craint quand même, on est emprisonné, on aime bien être libre et tout. Et du coup, on a dû adapter le vocabulaire, c'est vachement important au niveau de la novlangue, vous adaptez le vocabulaire, donc là maintenant, lorsqu'on est chez les libristes, là, on ne jailbreak pas en route. Et là, on est super content en fait, parce que c'est complètement différent, d'accord ? Non, on va sortir de prison, c'est ouais, mais router, non, c'est cool, la route est longue, tout ça, enfin, c'est... ouais, merci.
Donc voilà, mais si vous voulez pouvoir vous éclater en tant que connard, et vraiment arriver à faire valoir toute votre connardise, toute votre génie d'ingéniosité, pour pouvoir créer des gammes de produits, il va falloir à un moment donné arriver à un état de grâce au sein de votre commanditaire, c'est l'état de monopole. On n'en parlera jamais assez, le monopole est essentiel. Pour cela, il vous faut racheter et être votre propre concurrence, tout simplement. Donc demandez bien à votre commanditaire d'être dans un état de monopole, cherchez des commanditaires en état de monopole, on verra ça aussi dans les cours... voilà, de recherche de commanditaires, parce qu'il faut à un moment donné choisir ceux pour qui on développera nos talents de connard, faire non plus pour tout le monde, à un moment donné, chacun ne le mérite pas. Donc voilà, et donc être en position de monopole comme ça, vous voyez, là on a par exemple ce fameux exemple du papier toilette.
Et donc oui, ce qui est très important, je vous disais, c'est encore l'histoire du marché libre non réglé, pour vous donner l'illusion que c'est un truc qui marche en fait. Et là on se dit, je vais acheter du PQ, voilà, il arrache un peu l'arrêt tout ça, donc je vais en chercher un autre parce que je me dis, chez Ecolou, c'est naze quoi. Et je vais aller chez Paul Tonnel, ce sera vachement mieux. Et on se dit, ouais, Ecolou, comme ça, la boîte va couler, enfin, ils vont peut-être pas couler, mais ils vont être obligés de faire des meilleurs produits, mais on s'en fout en fait, puisque de toute façon, avec Paul Tonnel, c'est les mêmes, d'accord. Donc en fait, ils ont juste réussi à vous faire payer plus cher ce que vous auriez eu de toute façon avec les autres marques. C'est un peu le même principe, vous connaissez le principe des fournées. Ou des traditions. C'est-à-dire le boulanger qui va vous faire un pain dégueulasse sur la baguette vendue au prix normal d'une baguette et qui va vous forcer toujours à prendre la fournée ou la tradition parce que sinon, voilà. Donc ça, c'est... bon là, il n'y a pas trop de monopole au niveau des boulangers. On n'a pas encore trop mis notre nez dedans.
Il y a des minotiers, on attaque par les minotiers, on y arrive assez bien. C'est du détail, c'est vous baisse en cours.
Donc ça, c'était pour les monopoles, mais je pense qu'on peut passer peut-être... alors, on a parlé du syndrome de l'huître.
Voilà.
On a mieux.
Quand on est en position de monopole.
Oui, vas-y.
Quand on est en position de monopole, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut développer tout son génie. On vous a parlé du syndrome de l'huître. Là, on a eu quand même un magnifique connard qu'on peut citer, je pense, à Octave, notre cher Octave, qui a inventé le syndrome de l'huître cyclique. C'est-à-dire, c'est un syndrome de l'huître qui va se rajouter à lui-même avec le rouleau de papier toilette. Hein. C'est quelque chose dont on a un besoin fondamental, c'est quelque chose qui est produit de manière monopolistique. Et donc là, on parvient à faire des choses formidables, et c'est le syndrome qu'on appelle, entre nous, le syndrome Ragonfer. Voilà. Tu veux, je vais mimer pendant que tu expliques un petit peu.
Oui, donc bah, c'est très simple, vous l'avez tous connu, j'imagine. On prend le rouleau de papier toilette, on tire dessus, normalement, hein, donc c'est, normalement c'est un petit peu collé pour que ça tienne, mais ça se déchire, hein, donc là, premier effet. Ensuite, la feuille se déchire complètement, là, parce que vous essayez de rattraper le coup, mais ça tient pas, forcément. Et puis au bout d'un moment, quand vous en avez gaspillé 4 ou 5, les suivantes apportent, tu vois, ils sont... Voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'au deuxième tour, comme la colle a bien imprégné, ça recommence. Le syndrome de l'huître cyclique. Non, mais c'est... Voilà.
Et pendant ce temps, on a la photo.
C'est important de le dire. C'est important de le dire. Si le consommateur est dans l'urgence, s'il a un besoin pressant, hein, eh bien, il fera de grosses commissions et il dépensera du flouze et du flouze. Voilà. Donc, l'idée, hein, vous l'avez bien compris, du connard est de manipuler les esprits simples. C'est quelque chose que vous allez faire, évidemment, avec le consommateur, on ne le dira jamais assez. Mais pas que.
Oui, effectivement. Alors, manipuler les esprits simples, c'est le cœur du métier. C'est une tâche un peu ingrate, mais nécessaire. C'est toujours chiant de parler à des abrutis. On en fait l'expérience en ce moment même. Bon, voilà.
Courage.
Oui, non, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Là, vous avez, on parlait tout à l'heure d'adapter le discours, et là, on est parfaitement dedans. Là, je crois que c'était pour des feux tricolores au milieu d'une route où il n'y a pas d'intersection. Vous savez, enfin, ce genre de conneries, là, ça vient de nous. Hein. Ça, il faut que tout le monde soit d'accord avec vous, mais ils vont tous avoir des motivations très différentes, en fait. Entre le garagiste, le représentant des parents d'élèves, le maire, le président du comité de voisinage, tout ça. Il va vraiment falloir adapter votre discours. Donc le garagiste, vous allez simplement dire que le fait de changer comme ça tout en vitesse, ça va générer des accidents, donc c'est super pour lui. La représentante des parents d'élèves, bah, c'est bien, ça fait ralentir. Le maire, de toute façon, vous lui racontez ce que vous voulez, à partir du moment où il y a du pognon, il signera, hein, c'est pas un problème. Ouais, voilà. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus, peut-être?
Non, tout simplement pour faire un peu la transition avec la suite, hein, vous verrez, vous aurez des cours bien sûr de manipulation de vos commanditaires, c'est très important. Il faut vous adapter aux besoins de chacun, donc identifier bien évidemment les besoins et les attentes de chacun, de chacune. Il faut aussi apprendre à utiliser leur langage, que ce soit évidemment à l'oral. Aujourd'hui, on parle de manière abrutissante, ça n'est pas pour rien, on sait qui nous avons en face, encore une fois, mais ça va être aussi à l'écrit. Et donc, vous allez devoir créer comme ça tout un tas d'outils, tout un tas de choses qui devront parler à vos commanditaires. Et c'est spécifiquement vrai dans l'administration, je crois qu'on a un exemple flagrant.
Ouais. Alors, attention les yeux, ceci est un document administratif.
Ne soyez pas debout.
Voilà. Un exemple typique, donc pour ça, on a bien sûr les grands classiques, c'est-à-dire Publisher, WordArt, hein. Joli WordArt ici. Bien sûr, dans l'idée toujours de créer quelque chose d'un peu infantilisant, hein, de toute façon, de montrer aux gens que c'est cool de bosser l'administration, il faut des étoiles et tout. Hein. Et puis, bien sûr, le classique, le grand, le beau, le comics sans MS.
Sans le comics.
L'administration sans le comics sans MS. Est-ce que ce serait vraiment l'administration?
Non.
Alors d'ailleurs, j'ai juste un petit truc supplémentaire sur le comics sans MS. Je vous mets la définition. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous choque.
Vincent Connard.
Voilà. Vincent Connard, nous sommes partout.
Je pense que ça part de soi. Bien évidemment, les cours de WordArt, les cours de Publisher et... Bien sûr, la biographie, l'autobiographie de Vincent Connard, inventeur de comics sans MS, sont indispensables à votre formation. On ne le dira jamais assez. Donc voilà, adapter sa forme est une chose importante. Et pour revenir un petit peu vers les consommateurs, adapter sa forme, créer de la gêne, créer comme ça de l'achat, peut aussi passer par une sorte de plaisir un peu malsain. Hein, voilà, on va aussi pouvoir emmerder les gens en croyant qu'ils se font, en leur faisant croire, pardon, qu'ils se font plaisir. Ça, c'est absolument essentiel, c'est un niveau encore plus subtil de connardise qu'on appelle entre nous la gamification. Voilà. Je pense qu'on a un exemple, hein. Voilà. Les caisses automatiques des supermarchés qui remplacent avantageusement les caissières. Donc voilà, les caisses automatiques ont été créées pour être fun. Il y a des couleurs, il y a des boutons, tac tac tac, vous appuyez, c'est rigolo. Et là, on transforme automatiquement avec ses sourires, avec ses images, avec ses choses comme ça, on transforme automatiquement le consommateur en un enfant. Plus vous l'infantilisez, plus vous pourrez lui dire ce qui est avantageux pour lui, parce que le consommateur ne sait pas ce qui est bien pour lui. Il faut donc, c'est notre devoir de le lui rappeler, nous voulons son bien à sa place.
Oui, et puis comme ça serait un petit peu trop simple si les gens faisaient juste le boulot des caissières pour le même prix au niveau des produits, il faut aussi quand même que la caissière revienne de temps en temps pour quand même montrer que vous n'êtes pas totalement maître de la situation. Donc on a un générateur...
Maman est là.
On a un générateur de plantage aléatoire, c'est génial. De temps en temps, il va déconner et il va falloir appeler la caissière qui va appuyer trois fois sur le même bouton. On sait pas pourquoi, hein, c'était juste de la déconne.
C'était Jean-Paul.
Ça, c'était Jean-Paul de la R&D, il avait un peu picolé la veille, il a dit allez, trois fois. Et non, ça marche bien, c'est génial en plus cette machine parce que les gens n'arrivent pas à se positionner par rapport à ça. Parce que d'un côté, ils sont super contents d'aller rapidement de plus avoir de caissière, mais en même temps, ils sont un peu gênés pour la caissière qui est licenciée avec ça. Et que les gens sont toujours super contents quand le travail disparaît, je trouve, faut aider l'heure. Donc oui, ça c'est la gamification et ça marche très très bien. Et donc, comme je l'ai dit, donc, on coupe les coûts, le prix reste le même, double rainbow.
Voilà. Encore une fois, en effet, ce qui est important, j'aime bien la notion là que tu as annoncée, parce que c'est la suite du cursus, hein, cette notion comme ça de quelque part manipuler l'inconscient collectif, hein, faire se positionner les gens. Et au final, encore une fois, les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux. C'est bien au niveau de la consommation, c'est encore plus vrai au niveau des pensées. Et il est du rôle du connard de manipuler l'inconscient collectif, manipuler notre culture, ce que l'on appellerait notre intelligence, avec beaucoup d'humour et de second degré. On a un exemple sur ça. Voilà, ceci n'est pas un truc de connard. Vous avez certainement vu, il y a eu un scandale qui a éclaté récemment sur ces fameuses piques anti-SDF, hein, que vous voyez ici, devant les banques, devant les résidences un peu huppées, dans les quartiers. On pourrait penser que c'est un connard qui a inventé ça. Voilà, si vous pensez ça, je vous recommande très chaudement de sortir tout de suite de ce cours et bien sûr de continuer l'atelier de macramé libre qui est disponible au bout du couloir, puisque ce n'est pas un truc de connard.
Oui, c'est extrêmement insultant quand on voit ça, de dire « mais quel truc de connard !» Ça, c'est un truc de blaireau, éventuellement, si vous voulez, il y a d'autres termes qui peuvent s'adapter, hein, en novlangue, toujours, vous pouvez y aller. Donc ça c'est très idiot, hein, du point de vue du connard, pour pas mal de raisons, en fait. Premièrement, c'est que votre banque, si vous voulez que les gens viennent se faire arnaquer à domicile, comme je disais, bah, il faut avoir une bonne image, quand même. Donc c'est-à-dire que traiter les gens avec des piques, là, finalement, ça passe mal, hein. Et ensuite, surtout, il y a une raison beaucoup plus profonde, c'est que le SDF est absolument essentiel à la société.
Nous l'aimons.
Nous aimons les SDF. Il faudrait qu'il y en ait plus. Ils sont là, en fait, pour représenter ce qui vous fait peur. C'est-à-dire que c'est l'être qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas consommer, donc qui n'existe pas dans la société. Et si vous voyez un SDF devant votre banque, vous allez être beaucoup plus préparé à prendre un crédit à la con qui va vous embêter pendant 25 ans, d'accord? Et donc, du coup, comme on a vu ce truc-là, quand même, qui nous déplaisait assez, et ben, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose. Alors, les gens ont cru que c'était eux. Voilà, tout le monde s'est indigné, on a un petit peu balancé des faux comptes, tout ça, enfin, habituel, hein. Vous savez, les comptes avec un œuf sur Twitter, c'est ça. Les comptes œufs, c'est sur Twitter. Tous. Et voilà, victoire. Les piques ont été retirées.
Alors, ce qui est essentiel, là, bien évidemment, vous avez signé un non-disclosure agreement, hein, je vous le rappelle. Donc, en sortant de ce cours, vous ne pouvez pas répéter ce qui vient d'être dit ici, c'est essentiel. Évidemment, il ne faut pas que les gens sachent que ce sont nous qui avons créé cette fameuse révolte citoyenne, spontanée, solidaire et responsable. Évidemment, ce sont les connards qui ont manipulé ça, avec nos comptes œufs, hein, comme on l'a dit, afin de, justement, conserver un maximum de SDF dans nos villes et d'avoir ces croque-mitaines qui permettent comme ça que vous restiez dans votre rôle de consommateur. Voilà, c'est très important en fait pour un connard de choper l'air du temps, de le mettre en bouteille et de le revendre aux gens. Voilà. Donc il faut toujours être en amont de la rumeur. Il faut que ce soit vous qui manipuliez la rumeur. Ce sera bien sûr des cours avancés auxquels très peu d'entre vous participeront, mais ce seront des cours fondamentalement essentiels.
Oui, et donc il faut bien comprendre que ça, ce Twitter, les comptes, tout ça, c'est prévu depuis le début. Vous comprenez bien que si les réseaux sociaux pouvaient changer le monde, ils seraient interdits. Ok. Donc, maintenant, on a un petit peu parlé des banques et je propose qu'on conclue un peu là-dessus, qu'on va finir par ce sujet parce que c'est un petit peu la base, hein, finalement. On parle de connardistes, tout ça, mais s'il n'y avait pas les banques. Hein. Alors, ça, c'est un banquier. Voilà, donc, quelqu'un qui va vous expliquer que ce produit qui va vous endetter pendant des plombes, qui va vous contraindre en fait à rester dans la vie que vous avez, en fait, une fois que vous avez pris un crédit, vous avez les couilles et poings liés, on va dire, je sais pas trop comment. Couilles au verre liées, voilà. Et il faut que vous soyez convaincu quand même. Donc il y a toute une pression pour vous expliquer qu'en fait c'est bien d'investir, c'est bien de s'endetter en fait quelque part. Enfin, je trouve ça génial parce que pour moi une dette c'est pas bien quoi. Enfin, on m'a toujours dit, faut payer ses dettes, sinon c'est la merde. Et la banque, c'est, oui, il faut s'endetter, c'est bien, c'est un investissement sur l'avenir. Avec, vous savez, les affiches bleues, tout ça.
Donc voilà, vous voyez, ce banquier a l'air, somme toute, très réaliste. On a tous et toutes vécu cette scène. Et pourtant, cette photo n'a pas été prise au sein de la banque. Elle a été prise au sein de notre centre de formation pour conseiller financier. Voilà. En effet, si vos banquiers agissent comme ça, c'est grâce à nous. Bien évidemment, nous les formons à la sortie, mais nous les déformons déjà dès l'entrée. Hein. Les écoles du commerce sont faites pour stresser les gens de manière absolument horrible, pour les mettre dans un état de dépendance à la victoire, hein, au fameux success story au win, et donc pour avoir des conseillers financiers qui aient une énergie de stress suffisante pour pouvoir être ainsi. Voilà. Alors, après, pourquoi est-ce essentiel les banques? Je pense que là, on va carrément vous parler de l'histoire, un peu, de la connardise.
Oui. Alors déjà, félicitations à ceux qui arrivent 10 minutes avant la fin. Vous auriez pu dire qu'au partiel et vous planter, ça aurait été encore plus vite. Hein.
On acceptera quand même votre argent.
Exactement. Alors là, on va devoir vous introduire une de nos plus belles créations. C'est avec un peu d'émotion que je vous présente l'argent dette. Merci. Je dis merci, mais c'est au nom des confrères qui sont passés avant, parce que je suis un petit peu jeune pour avoir participé à cette merveilleuse chose.
Travail, génération.
Ah oui, non, mais c'était le départ. C'était, après, c'était feu d'artifice. Une fois qu'on a mis ça, le reste est sorti bien. On a même presque plus besoin d'être là, mais ça, bien sûr, ils s'en rendent pas compte parce que on y travaille aussi.
Voilà. Alors, il faut bien se rendre compte que, mais par exemple, l'argent de dette a été imposé de manière mondiale en Europe, aux États-Unis. Aux États-Unis, les pères fondateurs avaient inscrit dans la Constitution même que le seul argent qui existe peut être basé sur l'or ou l'argent, métal, car l'or et l'argent ne s'impriment pas. C'était inscrit dans la Constitution. Il a fallu déconstruire ça. Il a fallu des générations et des générations de connards pour sortir de l'étalon or, l'étalon argent, et pour arriver à d'autres choses, l'argent papier, puis l'argent dette. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour créer plus d'argent, imaginons qu'il y ait 1 000 milliards, 1 000 trilliards d'euros en Europe, pour en créer un de plus, il faut que vous alliez dans votre banque et que vous fassiez un prêt d'un euro, et le banquier, par magie, par votre reconnaissance de dette, va créer de l'argent. C'est le principe même de l'argent dette, c'est comme ça que tout argent se crée dans nos sociétés actuellement. Voilà. C'est un travail de longue haleine, de ce qui a été fait sur des générations et des générations de connards. On est extrêmement fiers d'en être arrivé là. Parce qu'à partir du moment où l'argent est de la dette, ce qui pourrait être quelque chose d'assez simple, vous pouvez surtout générer des intérêts. Et donc, du flouze. Je crois que ça commence à rentrer, ils sont pas si mauvais que ça. Hein.
Oui, donc là, c'est le principe de créer de l'argent à partir de rien. Quoi. C'est un peu comme l'art contemporain, vous voyez. Vous chiez dans une baignoire, vous mettez votre nom dessus, 1 million d'euros.
Oui, mais c'est
encore mieux. Oui, non, mais après, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, vous êtes devant, c'était Franck Lepage qui disait ça. Alors, vous avez deux choix. Hein. Soit vous vous dites, c'est complètement con, ou soit vous vous dites, ouais, il y a une démarche. voilà.
Petite remarque en passant, je pense que c'est le petit con d'avant hein, qui disait que l'artiste ne vend pas son œuvre mais sa démarche, tu vois, n'importe quoi.
Mais lui déjà, si je fais le petit color. Écoute, moi je pense qu'on a fait à peu près le tour, et voilà. Du coup je vous propose, on va quand même finir un peu de manière un peu plus festive.
Oui.
Et je vous propose qu'on chante notre hymne.
On est déconneurs aussi.
Ouais, voilà, c'est...
On a un petit karaoké
à vous proposer. Non mais derrière des allures un peu comme ça austère, on a quand même un cœur hein, à l'intérieur qui bat, une sensibilité, et nous vous proposons notre hymne.
Voilà. C'est sur l'air de It's a Small World, hein, pour les connaisseurs.
Donc, ça serait bien de reprendre avec nous.
Voilà, ça va voir très con.
L'argent d'être, c'est gentil. L'argent d'être, c'est gentil. L'argent d'être, c'est gentil. On fait plein de sous, encore une fois.
Oui.
L'argent d'être, c'est gentil. L'argent d'être, c'est gentil. L'argent d'être, c'est gentil.
On fait plein de sous.
Ces adresses sont réelles.
Oh,
vous pouvez vous y mêler là, on les reçoit.
Bon, alors après, vous pouvez nous envoyer des mails, mais la plupart du temps, on ne les lit pas. Donc, c'est vous. Ouais. Et si on les lit, sinon, on a la méthode Inbox 0, je ne sais pas si vous connaissez, on fout tout à la corbeille en fait. Ça marche plutôt pas mal. Google Inbox, c'est nous aussi. Hein.
Juste pour vous dire que. Toutes ces conneries, on peut même enlever le nard, hein, je crois. Hein. Toutes ces conneries, en fait, donc viennent d'un site qui s'appelle connard.pro, donc d'une œuvre réalisée donc avec Chic, l'illustrateur, et moi au scénario, qui est un guide du connard professionnel, donc une sorte de roman illustré de roman feuilleton, je sais pas comment dire, satirique. C'est publié dans le domaine public vivant grâce à la licence CC0. On s'amuse beaucoup à l'écrire, même si j'ai eu une grosse pause là et que ça va reprendre, à mon avis, début décembre, hein, et à mon avis, ça devrait pas tarder en tout cas. Et que donc c'est une œuvre qui est libre, donc n'hésitez pas à vous en inspirer, à nous inspirer en nous envoyant des idées de connardise, parce qu'en fait, le principe de tout ça, c'est que le pire dans la paranoïa, c'est quand on se rend compte qu'en réalité, on a raison. Voilà. voilà.
Non, si vous avez des questions, vous voulez garder, non, je déconne.
Merci Dispensaire, si tu pouvais enlever le t-shirt aussi. j'ai vu que vous dispensez des cours d'aliénation du consommateur. Ouais. Et c'était pour ça, si vous avez aussi des cours d'aliénation de l'employé. Par exemple, il y a eu une grosse opération de com' dernièrement qui s'appelait J'aime ma boîte, où il fallait faire un magnifique clip pour dire qu'on aimait sa boîte. Et j'ai particulièrement été impressionné par celui de Jiffy, pour t'assister. Avec les Gypsy King, où j'aime ma boîte, et moi je l'assume, car c'est ma vie.
Ouais, mais ça c'est que la première phrase, après on a j'aime ma banque, j'aime mon assurance, j'aime ma mutuelle, tout ça, vous allez vous fendre la gueule, hein. Non, oui, ça fait partie.
Bah oui, ça fait partie du métier, évidemment. Voilà, un bon employé bien manipulé est un bon consommateur, puisque un employé est un salarié, enfin voilà, qui génère de l'argent dette et qui en dépense, enfin donc... C'est absolument évident. Je veux dire, ce n'est pas non plus la première fois qu'on fait ça. On fait aussi, tous les fameux lip dub, c'est nous. Vous vous souvenez de la mode des lip dub? De rien, j'ai envie de dire. À un moment donné, dans 10 ans, 15 ans, on verra les premiers enfants issus de lip dub, voilà, qui découvriront ce que leurs parents ont fait sur Internet. À un moment donné, ça pourra être assez intéressant. Je pense qu'on pourra gêner, on pourra là se mettre avec des psychiatres, si vous voulez, et générer des choses comme ça. Après, il y a des choses, en fait, si vous voulez, on va aussi beaucoup, pour les employés, s'inspirer des zones émergentes. La Chine, par exemple, absolument formidable, hein, pour qui n'a pas fait du tout comme Orange pour traiter les problèmes de suicide et de défenestration de ses usines. Hein, Orange a essayé de répondre à ça, ce qui est absolument débile, ce n'est qu'un employé, ce n'est pas vraiment important. La Chine plutôt met des filets. Hein. Donc c'est, ce qui est très intéressant, c'est que quand quelqu'un se jette de votre usine, vous le récupérez en bas du filet, vous lui dites qu'il sera pris sur ta poste café. Voilà, retourne à ton poste. Et là, on a ce quelque chose de vachement plus intéressant.
Ce chinois est con parce qu'il voit le filet mais il saute quand même. Voilà, d'autres questions? N'hésitez pas, ça va mal se passer. Je pense. Bon, bah. Et ben dans ce cas, merci beaucoup. Merci. Et bon courage pour vos études de connard.